suis journaliste indépendant et je collabore notamment avec un média qui s'appelle Off Investigation et pour lequel je chronique pas mal de livres enquêtes de journalistes. Donc à l'occasion de cette collaboration-là, j'ai chroniqué le livre de Merem Laribi et ça m'a fait l'effet un peu d'une déflagration, quoi. À partir du 7 octobre, elle rapporte un an d'horreur à Gaza et donc j'ai lu des choses que j'avais pas vues ailleurs. Et donc vu l'impact que ça a notamment autour de chez nous, à Ganges notamment, avec le collectif Palestine Solidarité qui occupe le rond-point chaque mardi depuis plus d'un an et demi, je me suis dit que c'était le lieu aussi où ça me semblait bien en fait de créer du débat autour de cette question-là, d'analyser un peu la faillite médiatique, quoi. C'est quoi le traitement qui en a été fait, quel est le récit en fait.
Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu le profil justement de cette journaliste, la Merem Laribi?
Ouais, alors elle se définit comme... elle est journaliste indépendante sur le tard, elle est franco-algérienne, elle assume justement le fait d'être originaire d'un pays colonisé, donc son livre parle aussi de colonisation et d'impérialisme, donc elle s'inscrit complètement dans ce mouvement-là. Elle collabore avec un site spécialisé qui s'appelle Orient 21. À mon sens, les mieux informés sur toutes les actualités au Moyen-Orient et notamment sur la guerre et le génocide. Donc elle collabore avec ce média-là, le Monde diplomatique aussi. Et elle a fait un passage à RT à l'époque où RT existait, notamment pendant les Gilets jaunes. Elle revient sur quelques pages dans son livre sur cette expérience-là. Et aujourd'hui, elle reste journaliste indépendante, elle collabore avec ses médias, indépendante et donc dans une situation pas forcément toujours très simple.
Donc elle, évidemment, elle a les yeux rivés sur la situation en Palestine depuis 7 octobre, mais depuis avant aussi, hein, quand même, il faut rappeler que c'est pas une situation qui est nouvelle, même si médiatiquement, ça a fait un petit peu un gros tournant. Elle, donc, c'est depuis cette place-là un petit peu qu'elle témoigne et qu'elle a écrit ce bouquin.
Oui, complètement. En fait, c'est à mon sens ce qui fait aussi l'originalité de ce livre, c'est qu'elle assume complètement un parti pris, mais qui est fondé, en fait. Comme tous les journalistes occidentaux, elle n'a pas pu se rendre sur place parce que Gaza est enfermée. Elle n'a pas accès, comme beaucoup d'autres gens, au terrain là-bas. Et donc, en fait, elle a écrit ce livre en faisant référence uniquement, en fait, à des journalistes palestiniens et palestiniennes sur place. Ce que n'ont pas fait la plupart, en fait, des médias occidentaux qui reprenaient des informations là-bas sans citer ou alors même en invisibilisant ces voix-là. Et donc, elle, en fait, cette démarche, elle vise aussi à redonner une voix à des journalistes qui ont subi de plein fouet cette guerre et ces attaques-là. Et voilà, c'est une position qui, pour moi, est assez originale, notamment dans le paysage médiatique, puisqu'en plus de ça, elle raconte son expérience au Quai d'Orsay et au Point Presse de l'Élysée, hebdomadaire qu'il y avait chaque semaine. Et donc, elle posait des questions de manière très insistante sur ce qui se passait là-bas, la position de la France. Et elle était confrontée aussi à une forme de mépris de certains autres journalistes qui, eux, étaient complètement insérés, en fait, dans les pôles du Quai d'Orsay et de l'Élysée et qui lui renvoyaient une image presque d'illégitimité, en fait. Elle avait presque pas sa place. Enfin, elle rapporte des propos qu'on lui a tenus qui sont de cet ordre-là, quoi. Donc, il y avait elle et un journaliste du média et on leur faisait comprendre, notamment à elle, qu'ils dérangeaient, en fait, avec leurs questions et qu'ils faisaient pas le même métier, en fait. Donc, ce livre, il raconte aussi ça. Il raconte aussi c'est quoi le métier de journaliste, notamment politique, quoi.
Tu parlais de fait de suivre des journalistes sur place. C'est vrai que ce conflit, en tout cas avec l'explosion technologique de ces 10-20 dernières années, notamment les portables et les réseaux sociaux, permet d'avoir des vraies informations de sources en temps réel, même au cœur du pire conflit du monde.
Complètement.
Il y a des vidéos, il y a des tweets, il y a des choses comme ça, donc l'info, elle est vraiment disponible.
Disponible pour même des journalistes restés sur place et qui peuvent complètement en fait vérifier les informations qui sont reçues de chez nous. Et donc en fait ce travail-là, il a rarement ou peu en tout cas été fait par des journaux ou notamment des chaînes de télé qui ont une certaine audience. Voilà, elle fait ce travail en fait de vérification. Alors même qu'elle a écrit ce livre de chez elle. Preuve en est en fait que c'était possible de le faire et donc elle rend compte en fait presque d'une forme de partialité, presque de paresse journalistique, ou en tout cas, oui, c'est une construction aussi, hein. Ça renvoie vraiment à ce que c'est d'être journaliste occidental et de couvrir un conflit comme celui-là, une guerre comme celle-là, de notre position en France.
Oui, et puis on voit sur les conflits, que ce soit celui-là ou celui entre l'Ukraine et la Russie, enfin l'invasion de l'Ukraine, qu'il y a clairement de la part des États, en tout cas des puissances qui sont derrière les armées, quel que soit le côté, une bataille pour le discours, en fait, qui va permettre de légitimer ou pas, en pointant des horreurs. On sait qu'il y a eu des polémiques, notamment par rapport à l'armée israélienne et des deux côtés aussi sur qui aurait décapité le plus d'enfants quasiment. Enfin, et comme quoi ça légitimerait des choses qui sont aussi structurelles, etc. Et donc il y a vraiment une bataille à faire là-dessus, on s'en rend compte. Et selon à qui appartiennent les chaînes de médias aussi, on va avoir des faits divers comme ça monter. Enfin, ces faits divers, c'est un peu, j'ai pas envie de féminiser ce qui s'est passé du tout, mais en tout cas des détails qui sont pris ensuite pour... comme argument implacable.
Oui, bien sûr. Elle revient aussi en partie, moi je l'ai appris, j'en avais pas ce détail-là, mais la stratégie de communication en fait de Tsahal, l'armée israélienne, qui a un nom, hein, ça s'appelle Hashbara, et en gros, c'est une stratégie de propagande extrêmement agressive et guerrière qui profite d'un relais international. C'est l'une des armées en fait quasiment les plus volubiles du monde. Enfin, elle parle de manière très incessante, elle a des représentants dans énormément de médias. En France, bon, on voit ce porte-parole de l'armée israélienne qui a écumé en fait les plateaux télé, notamment sur chaîne.
Ils sont venus montrer même des vidéos à l'Assemblée, il me semble, au début après le 7 octobre.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais donc voilà, il y a quand même une stratégie derrière, et aussi il y a de la désinformation massive en fait, notamment sur, comme tu le disais. Le meurtre d'enfants, et on sait en fait que désinformer ou mal informer, c'est déshumaniser en fait d'une certaine façon. Et donc le mérite de ce livre pour moi, c'est aussi ça, c'est de nommer les auteurs, les alliés aussi de fait de ce génocide-là, mais aussi les gens qui en sont directement les victimes, quoi. Les femmes, c'est un conflit qui atteint directement les femmes. Les enfants, c'est les enfants et les femmes et les personnes âgées sont les principales victimes en fait de ce conflit. Et donc voilà, il y a des personnes dont il faut rappeler le nom et la place. Et je pense que son livre sert aussi à ça. C'est un témoignage sur le temps long, quoi, qui s'inscrit sur le temps long en tout cas.
Et alors, puisque toi aussi tu es journaliste, que là, je sais pas. Quand est-ce que vous aviez calé ce rendez-vous? Mais il se trouve que l'actualité, elle bouge toujours beaucoup du côté de la Palestine. Mais là, il semble y avoir un petit changement de vent, en tout cas, de la manière dont en France, en tout cas, on traite les questions d'aide humanitaire et de famine sont vraiment de plus en plus évidentes, même à ceux qui ne veulent pas le voir. Qu'il y a eu cette histoire de flottille de la liberté, là, avec quelques militants qui viennent de se faire arrêter au large. De manière générale, la communauté internationale a un positionnement assez clair sur ce qui se passe, mais en France, ils sont très très frileux. Et là, on voit dans les chaînes un peu, on va dire, qui se mouillent pas d'habitude, des modifications, en tout cas, d'éléments de langage. Et est-ce que tu sens ça aussi? Et quel espoir ou pas ça vous donne? Est-ce que vous avez pu échanger là-dessus peut-être avec Mariam? Je sais pas.
C'est très clairement un sujet qu'on va aborder de toute façon mardi, ne serait-ce que sur l'exemple de la flottille pour la liberté, qui finalement me semble aussi symbolique de ce qui se passe toujours. C'est-à-dire que tu allumes ta télé, je vais nommer les chaînes, hein, mais tu allumes BFM, par exemple, une éditorialiste politique parle de Rima Hassan en des termes qui sont pour moi peu journalistiques ou peu déontologiques. Il y a des éditorialistes qui avancent toujours une flottille de pacotille, alors que voilà, qui remettent en question en fait l'initiative en elle-même. Je pense que certains éditorialistes ne sont pas pour moi des journalistes, pour le coup, pas au sens où je dis que Mariam Larribi est journaliste, c'est-à-dire qu'ils ne vérifient pas, ils n'essayent même pas de rentrer en contact avec les personnes sur place, ce que d'autres médias ont pu faire. Donc voilà, il y a toujours un peu un fond comme ça de partialité, mais c'est vrai que depuis quelques mois, sans doute, je pense, suite à la suite de pressions populaires. Je pense que ça se multiplie partout dans le monde. Si on décentre un peu le regard, je pense que on peut voir aussi un soutien massif qu'il y a à l'endroit du peuple palestinien. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure, pression diplomatique aussi énorme, certaines ambassades, notamment en Amérique latine, ou en Irlande,
aussi.
En Europe.
L'Espagne, voilà, qui, en tant que gouvernement, se positionne aussi.
Voilà, ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'aussi, certains médias, peut-être, prennent le pli de ça et commencent à revoir un peu leur traitement qui était complètement binaire et qui, je pense, intégrait complètement les possibles accusations d'antisémitisme, se faisait le relais de d'institutions ou de lobbies qui étaient extrêmement influents. Enfin, oui, il y a un mouvement en tout cas. Je pense que et c'est heureux en fait que ça arrive.
Et puis ces médias ont aussi participé à invisibiliser d'ailleurs des mouvements, que ça soit en Israël même, de population, une partie de la population qui est quand même très hostile à Netanyahou et qui l'était d'ailleurs bien avant le 7 octobre. Et puis même à l'intérieur de la Palestine, malgré la galère, il y a quand même beaucoup de gens aussi qui critiquent le Hamas et qui aimeraient bien aussi s'en débarrasser. Ou en tout cas, enfin, voilà, il y a quand même des voix multiples dans tous les espaces. Bien sûr. Et c'est vrai que les médias ont tendance à... Voilà, suivre des lignes rouges qu'on impose, c'est les gentils, les méchants, selon du côté où on veut se mettre, mais il n'y a même pas de nuance là-dedans, quoi.
Ouais. C'est clair. Alors que c'est un sujet qui doit être inscrit dans le temps long, avec qui est en fait, il faut lui donner une lecture coloniale et impérialiste. Et je pense que l'un des gros avantages, en fait, finalement, de cette couverture-là et des critiques qui ont suivi, c'est ça. C'est en fait peut-être de redonner un sens pertinent au conflit. C'est un conflit qui est colonial. C'est un conflit qui est impérialiste. Et il y a des personnes colonisées et un colonisateur. Et on le voit aussi en Cisjordanie occupée. On parle énormément de Gaza, mais en Cisjordanie occupée, il y a des colonies qui sont en train de s'étendre massivement avec des milices armées soutenues par Tsahal. Tout ça aussi est finalement assez peu raconté. Ça questionne aussi le modèle économique des journaux. Tu l'as dit tout à l'heure, qui est propriétaire des médias qu'on regarde, qu'on lit? Qu'est-ce qu'un média indépendant peut fournir de plus? Et ben, une liberté de ton, et c'est déjà énorme. Et une liberté, en fait, de choisir ses sujets et de couvrir de manière plus pertinente les choses et plus complexes. Ramener de la complexité là-dedans, c'est justement lié à ça, quoi.
Puis on a qu'à se dire, pour rester optimiste, que ça a un impact, parce que sinon, ces journaux-là seraient pas aussi menacés, justement, par les journaux dominants.
Bien sûr, ça a un impact.
Bah Antoine, merci beaucoup pour ce petit préambule à la soirée, donc où on l'aura compris, on parlera à la fois de la situation en Palestine, mais aussi donc du traitement médiatique de ce conflit avec Meriem Laribi et toi donc, et puis les questions et les participations du public et l'association de l'autre côté aussi.
Que ça se passe au local de l'autre côté, qui est une asso, qui bénéficie pas de subventions, donc c'est important de venir soutenir des lieux qui permettent ce genre de débat. Il y a aussi le collectif Gauche Solidarité, Seven Palestine Solidarité, qui va venir parler justement de son action sur les ronds-points, et la librairie L'Arbre Sans Fin qui proposera une sélection de livres. Donc c'est collectif tout ça.
Oui, on peut nommer le fait qu'effectivement, dès qu'ils ont voulu faire des choses publiques, de manière associative, sur la commune de Ganges, on leur a refusé le droit parce que justement, ce sujet sensible de la Palestine, il ne fallait pas que ça déborde. Et donc, il n'était même pas question d'en parler ou en tout cas de faire quelque chose d'officiel. Donc c'est bien aussi que ça ait lieu là, tout à fait. Tu fais bien de le souligner.
Ouais. Merci à toi.